ce matin, qui nous nourrit. On vient de chanter qu'on vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On va lire sa parole, mais avant on va le prier de la rendre digeste pour nos cœurs. Oui Seigneur, c'est une grande joie, un privilège de pouvoir ouvrir ta parole et d'entendre les paroles du Dieu vivant. Nous voulons que nos cœurs, Seigneur, soient ouverts, réceptifs, sensibles à ta parole. Père, il n'y a que toi qui puisses changer un cœur. Nous ne le pouvons pas, même avec nos plus grands, nos plus brillants efforts. Et toi, tu peux toutes choses. Alors nous te prions qu'il en soit ainsi. Nous te prions aussi pour nos enfants, pour qu'ils reçoivent ta parole et que tu bénisses les moniteurs qui les enseignent. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc on va continuer dans la lecture et le commentaire de l'épître aux Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens. Et si vous étiez là la semaine dernière, peut-être que vous vous souvenez qu'on avait vu comment l'apôtre Paul préconise d'appliquer la discipline dans l'église quand un frère ou une sœur refuse de se repentir. Il a dit « ôtez le méchant du milieu de vous » pour que le péché, ça ne devienne pas une habitude dans l'église, pour que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché, parce que le péché c'est l'œuvre du diable et que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors cette assemblée de Corinthe, elle posait pas mal de problèmes à l'apôtre Paul, mais pour nous c'est quand même une bénédiction parce que on voit une grande partie des problèmes auxquels une église peut être confrontée et on apprend beaucoup grâce à eux. Et on apprend surtout, moi ce que ça m'apprend, c'est que on n'est pas des cas désespérés. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas, on peut le dire, à Corinthe, mais point par point, le Seigneur a repris ses enfants. Parfois, il a dû un petit peu hausser le ton, comme un père qui élève un peu la voix parfois pour reprendre ou corriger ses enfants, mais il l'a toujours fait avec amour et dans un seul but, c'est le bien de son Église, le bien de ses enfants. Donc je vous propose de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, mais cette fois-ci, on ne va pas lire tout le chapitre, on va lire les 8 premiers versets. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. J'arrête là la lecture du passage qui va nous occuper ce matin. Alors si vous avez entendu les différentes prédications qui ont porté sur cette première épître aux Corinthiens, vous avez vu qu'on a vu donc un certain nombre de problèmes, de péchés. Il y avait de l'orgueil spirituel, de l'impudicité, et on avait dans cette assemblée plutôt tendance à laisser le péché qu'à le juger. Et l'apôtre Paul avait dit que les chrétiens de Corinthe étaient charnels et non pas spirituels. Pourquoi ? Parce qu'ils agissaient plutôt selon les principes de la chair que selon les principes de l'Esprit de Dieu. C'est pas difficile d'être charnel. Il n'y a pas d'effort à faire. On est charnel dès qu'on laisse notre nature agir. C'est notre condition naturelle. La parole de Dieu, elle dit que nous sommes nés dans la chair, qu'on est nés dans le péché. Alors quand on agit avec notre nature, ben on agit avec la chair et on agit avec le péché. Si vous voulez bien prendre avec moi dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, Galates 5, on va lire 5 versets, 6 même. Galates 5, à partir du verset 16, où l'apôtre Paul dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que on rappelle toutes ces choses ce matin ? Parce que, en quelque sorte, à la racine des problèmes qui sévissaient dans l'église de Corinthe, il y avait la chair et les manifestations de la chair. Quand c'est la chair, c'est-à-dire nos propres désirs, notre propre nature, nos envies, qui règne dans nos vies, la parole de Dieu, elle dit qu'on est charnel, qu'on vit selon la chair et qu'on ne vit pas selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Esprit Saint qui nous conduit. On a lu la semaine dernière que dans l'église de Corinthe, il y avait de l'impudicité, mais il y avait aussi des inimitiés, des querelles, il y avait des frères et des sœurs qui jalousaient les dons spirituels des autres, et Paul rapporte même qu'il y avait de l'ivrognerie parmi les frères et sœurs, et il y avait des divisions. Et bon, la liste qu'on a lue dans Galates, elle n'est pas exhaustive, mais elle nous décrit quelques-unes des manifestations de l'œuvre de la chair. Et la chair prend le dessus quand la parole de Dieu ne fait pas autorité dans nos vies, quand on fait preuve de paresse spirituelle, quand on refuse de juger le péché. Vous savez, ça m'a fait penser petit peu, si vous avez un jardin, vous voyez qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui se développent dans le jardin, et ça m'a fait penser à un jardinier qui laisserait se développer tout ce qui pousse dans son jardin, compris le chien-dent, au prétexte que c'est naturel, refuserait de les appeler mauvaises herbes simplement parce que elles sont là. Et mais s'il y a du chien-dent qui pousse dans votre jardin et que vous ne le vous laissez faire la nature, il va finir par coloniser tous les sols. Alors au début, c'est sûr que ça ne va peut-être pas se voir, parce que le chien-dent, au départ, il ressemble un peu à du gazon. Mais rapidement, vous allez voir qu'il va pousser des tiges pas très jolies. Il a tendance à sécher plus vite que le gazon, à devenir jaunâtre, à devenir cassant. Et dans nos vies, c'est un petit peu la même chose quand les œuvres de la chair prennent le dessus. Au début, elles peuvent rester discrètes, mais petit à petit, elles vont se voir de plus en plus, elles vont devenir des habitudes et elles vont finir par tout envahir. Donc à Corinthe, il y avait de l'orgueil, il y avait des querelles, il y avait des disputes. Est-ce que ça peut arriver que des chrétiens ne soient pas d'accord entre eux ? Oui, ça peut arriver que des chrétiens ne soient pas d'accord entre eux. Ça peut être un désaccord sur une décision qu'il y a à prendre dans l'Église. Ça peut être un point de vue différent sur la lecture d'un passage, la compréhension qu'on peut avoir de certains passages. Ça peut aussi venir du fait qu'on ne se comprend pas tout à fait, qu'on peut avoir parfois l'impression d'être agressé par l'un ou par l'autre, qu'on interprète mal ce qui nous est dit. Ça peut venir aussi des dysfonctionnements qui peuvent avoir lieu dans les différents ministères, dans les différentes tâches qu'il peut y avoir dans l'Église. Et tout ça, ça peut provoquer des frictions dans une assemblée, même si le Seigneur a dit aux frères et sœurs qu'ils doivent s'aimer ardemment les uns les autres. Bah, parfois, il peut y avoir des frictions. Dans le passage de 1 Corinthiens qu'on vient de lire, 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul disait qu'aussi c'était à cause des choses de cette vie. Il peut arriver que des chrétiens se disputent, soient en désaccord au sujet des choses de cette vie. Imaginez qu'en sortant tout à l'heure, en faisant un marche arrière avec ma voiture, j'arrache le pare-choc de la voiture qui est garée à côté de la mienne. Il y a de quoi se mettre un petit peu... les nerfs en pelote, quoi. Mais ça fait partie des choses de cette vie. Et c'est pas parce que je suis chrétien que je vais jamais arracher le pare-choc de qui que ce soit. Je vais tout faire pour pas que ça arrive, mais ça peut arriver. Imaginez encore que vous ayez prêté à quelqu'un un objet, un outil, un bouquin, qu'on vous le rende détérioré. Ou qu'on vous le rende pas du tout. C'est énervant. On peut dire que ça fait partie des choses de cette vie. Donc ça peut arriver entre chrétiens qu'on ne soit pas d'accord les uns avec les autres, qu'il y ait des sujets de friction. Quelque part, je suis même tenté de dire que c'est inévitable et que ce sont des occasions que Dieu place dans notre vie pour nous aider à progresser, pour nous aider à exercer la miséricorde, à exercer le pardon, pour apprendre à agir d'une manière qui est conforme à sa parole. Parce que le problème à Corinthe, c'est le problème qui concerne le passage qu'on lit aujourd'hui, c'est qu'ils réglaient leurs différends d'une manière qui n'était pas biblique. Comment est-ce qu'ils agissaient ? La parole de Dieu nous dit qu'ils plaidaient devant les injustes. C'est-à-dire qu'ils se faisaient des procès les uns aux autres, ils allaient dans un tribunal auprès des autorités de la ville, ils faisaient appel à des juges pour les départager dès qu'ils avaient un différend. Et ça, c'est quelque chose qui est grave. Ça montre qu'il y a vraiment un problème de fond, un problème de cœur, parce que l'Église du Seigneur, elle ne fonctionne pas selon les principes du monde. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, on a lu la semaine dernière, et vous pouvez le relire si vous le souhaitez, que le monde est sous la puissance du malin. Ça veut dire que le fonctionnement de notre monde, de notre société, est inspiré par le diable. Quelque part, c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui est le maître. Et c'est dans le monde qu'on voit des gens qui se font des procès les uns aux autres, pour un oui, pour un non. Mais l'Église, elle doit fonctionner selon les principes de la parole de Dieu. Et il y a un principe que j'ai relevé qui est noté au moins trois fois dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Marc, il est écrit « Soyez en paix les uns avec les autres ». Dans l'épître aux Romains, il est écrit « Soyez en paix avec tous les hommes ». Et dans la première épître aux Thessaloniciens, il est dit « Soyez en paix entre vous ». Donc on voit qu'il y a un principe de paix dans l'Église. Et juste avant le passage sur les œuvres de la chair qu'on a lu dans Galates tout à l'heure, il y a deux versets intéressants, Galates 5, versets 14 et 15. L'apôtre Paul dit que toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais à Corinthe, ils se faisaient des procès. Ils avaient des disputes et ils allaient en justice pour faire valoir leurs droits. Ça montre qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre équitablement et qui faisaient même peut-être pas cet effort entre eux. Alors pour se départager, ils faisaient appel à un juge du monde pour qu'il donne raison à l'un, qu'il donne tort à l'autre. Ça montre aussi qu'il n'y en avait aucun qui était prêt à céder, aucun qui était prêt à abandonner ses droits, et tout le monde voulait rester sur ses positions. Et finalement la paix, bah, ça leur passait là. Et cette situation, elle était vraiment très grave, très très grave dans l'Église. C'était préoccupant, déjà parce que c'est anormal qu'il y ait des divisions dans le corps de Christ. Il y a un seul corps et c'est un péché dévastateur. C'est anormal qu'il y ait des divisions dans le corps de Christ. Mais en plus, quand ces choses arrivent, ces choses qui sont déjà une honte pour le Seigneur, quand ces choses arrivent et qu'elles sont exposées devant le monde, alors là, c'est un déshonneur complet. C'est un témoignage affreux, c'est un peu comme si, en admettant qu'une telle situation arrive ici, comme si on placardait en gros dehors, n'entrez pas ici, le Seigneur qui règne sur cette église, c'est le Seigneur de la zizanie. Ce serait exactement la même chose. Seigneur Jésus, il ne divise pas pour mieux régner, mais il règne dans l'unité. Et Paul, il dit que tous ces conflits, même ceux qui concernent les choses de cette vie, ils doivent être réglés au sein de l'Église. Pas dans le monde, mais au sein de l'Église. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette maxime qui dit qu'on lave son linge sale en famille. Vous avez déjà entendu ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'expose pas les querelles familiales publiquement. On doit régler en famille les querelles qui concernent la famille. Et l'Église, c'est une famille. Alors, quelle doit être notre attitude si on rencontre un différend avec quelqu'un dans l'Église? Eh bien, l'apôtre Paul, il parle de faire appel à un homme sage pour prononcer entre ses frères, c'est-à-dire un médiateur, quelqu'un qui est connu dans l'Église pour sa sagesse et qui sera chargé de départager. Pas forcément de dire « toi tu as raison, toi tu as tort », mais de départager et de donner une solution, d'entendre les personnes qui ont un différend. Pourquoi est-ce que c'est dans l'Église que ça doit se faire aussi? Parce que si on fait appel à un juge dans un tribunal, on va faire appel à un homme qui n'est pas enfant de Dieu, qui ne connaît rien aux choses de Dieu, qui ne sait rien de l'Église et qui va prononcer un jugement qui sera fondé sur le code civil, le code pénal. Alors c'est peut-être un expert dans son domaine, mais le code civil et le code pénal, ils n'ont pas cours dans l'Église. C'est la parole de Dieu qui a cours dans l'Église. Mais je crois que dans le passage qu'on a lu, ce que veut surtout montrer l'apôtre Paul, c'est qu'il y a une autre voie pour régler les conflits. Il y a quelque chose de meilleur, quelque chose qui est bien plus conforme à la parole de Dieu, qui est bien plus semblable aussi au caractère du Seigneur Jésus. Il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alors dans ces deux questions, il y a quelque chose qui est vraiment révolutionnaire, mais qui est vraiment conforme à la volonté de Dieu. Bien plus conforme que de vouloir obtenir gain de cause. Cet enseignement, il repose sur les paroles du Seigneur Jésus. Je vous invite à les lire avec moi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5. En Matthieu 5. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Parce qu'on a dit que l'Église ne fonctionne pas selon le code civil ou le code pénal, fonctionne selon la parole de Dieu qui nous dicte en quelque sorte les règles du royaume de Dieu. Et donc on va lire une de ces règles dans Matthieu 5 à partir du verset 38. Le Seigneur Jésus dit: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Moi, j'aime beaucoup le passage du sermon sur la montagne. Ça fait partie des premières choses que j'ai lues dans la parole de Dieu. C'est tellement contraire à notre nature. C'est quelque chose que je trouve vraiment détonnant. Ça peut même paraître choquant. Mais quelque part, là, il y a quelque chose qui devrait agir comme de la dynamite dans nos vies pour bousculer un peu nos principes, les principes du monde qui sont ancrés dans nos cœurs. Quand quelqu'un nous frappe, notre première réaction, c'est de rendre le coup plus fort. C'est pas de tendre l'autre joue. Le Seigneur nous dit d'être prêt à encaisser. Excusez, c'est un peu familier, mais d'être prêt à encaisser parce que c'est la marque de l'amour, c'est la marque de la paix. Et ces principes, ils ne doivent pas s'appliquer uniquement entre un chrétien et un non-croyant, mais à plus forte raison, s'ils doivent s'appliquer entre un chrétien et quelqu'un qui n'est pas sauvé, ils doivent aussi s'appliquer avec plus de force entre deux personnes qui appartiennent au royaume de Dieu. Alors quelqu'un se dira peut-être, non mais il se moque de nous. Quand je suis victime d'une injustice, il faut que j'accepte même d'aller encore plus loin, d'encaisser sans rien dire. C'est ça l'Église, c'est ça être chrétien. Mais c'est pas juste. Non, c'est pas juste, c'est vrai. Mais qui est-ce que je suis, moi, pour réclamer qu'on me fasse justice? Qui est-ce que je suis pour me plaindre d'être victime d'une injustice? La parole de Dieu, elle dit que pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Peut-être que ça vous choque, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Le seul vrai sujet dont un chrétien puisse se plaindre sont ses propres péchés, parce que ce ne sont pas les péchés des autres qui m'empêchent d'être en communion avec Dieu, ce sont les miens. La Bible, elle dit que ce sont mes péchés qui me cachent la face du Seigneur et qui l'empêchent de m'écouter. Mes péchés, pas ceux des autres. Et quand je réclame qu'on me fasse justice, quand j'implore, quand je supplie Dieu qu'il me fasse justice, je peux le faire. Je peux le faire. Mais il ne faut pas que j'oublie que si Dieu devait me juger selon la justice, s'il devait me juger selon mes œuvres, je serais jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Je serais envoyé en enfer. La parole de Dieu dit que dans sa grâce, Dieu ne nous traite pas selon nos fautes, qu'il ne nous juge pas selon nos péchés. Et même en Christ, on a le privilège d'avoir le pardon plein, entier, la rémission de nos péchés. Alors ce que je suis en train de dire, c'est pas de fermer les yeux quand je suis victime d'une injustice. Il ne s'agit pas de faire l'autruche. Et l'apôtre Paul n'est pas un adepte de la méthode Coué. Il dit pas « je vais bien, tout va bien, il s'est rien passé ». C'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Ça serait faux, ça serait hypocrite d'adopter ce raisonnement-là, et ça serait même un moyen de tomber dans l'amertume. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a un moyen de faire face à l'injustice, de la regarder comme une injustice et de la surmonter, de l'accepter pour l'amour du Seigneur. Et c'est possible, ça, parce que le Seigneur nous a aimés, parce qu'il nous a accordé lui-même son pardon. C'est presque inévitable qu'on ait un jour ou un autre à souffrir d'une injustice, même dans l'Église. Parce que quelqu'un va nous avoir blessés, parce que quelqu'un ne nous aura pas dit bonjour en rentrant, pas dit au revoir en partant. Il peut y avoir plein d'autres situations, parce qu'on ne s'estime pas estimé à notre juste valeur. Et l'apôtre Paul, il dit qu'il y a deux manières de voir les choses, deux manières de réagir. La première consiste à demander que justice soit faite. Ça consiste un peu à entrer dans une logique revancharde. Et la deuxième qu'il préconise, c'est de prendre exemple sur le Seigneur Jésus, d'accepter de se laisser dépouiller. C'est un mot qui est très fort, se laisser dépouiller. Il peut être utilisé en grec pour parler de la fraude, du vol. C'est se laisser frustrer d'un droit qui nous appartient. Oui, j'aurais le droit de demander justice, ça ne serait pas injuste de le faire. Mais le modèle qui est donné en Jésus-Christ est différent. Est-ce que quelqu'un ici a déjà été confronté à de l'injustice ? Ah, vous avez de la chance, hein ? Ah, moi, j'ai déjà été confronté à de l'injustice. Dans l'Église aussi, ça arrive. Comment est-ce qu'on réagit ? Naturellement. On est triste, on souffre, ça fait mal. C'est frustrant. Et peut-être que parce que la parole de Dieu résonne dans vos cœurs, vous avez voulu surmonter ça. Mais à l'intérieur, ça grogne. On essaye de chasser les sentiments, on essaye de penser à autre chose, de prendre le dessus, mais c'est pas évident, et parfois on peut rester avec de la colère, avec de l'amertume, de la frustration. Je prétends pas être un expert en la matière, hein, du tout. J'ai pas de recette miracle par rapport à ça. Vous savez, les recettes miracles, on en entend beaucoup parler, en particulier maintenant à l'approche de l'été, pour retrouver un corps svelte. Mais la littérature chrétienne aussi propose des recettes miracles pour solutionner rapidement nos problèmes. Le problème, c'est que derrière la recette miracle, en fait, il y a l'idée qu'on veut aller vite. On veut surtout que ça ne nous demande pas d'effort. Et on veut bien plein de beaux résultats, mais pas trop se donner de la peine. Mais dans la vie chrétienne, la parole de Dieu, elle ne nous exempte pas de faire des efforts. Elle ne nous dit pas que tout sera facile. Elle nous dit qu'on doit faire preuve de persévérance, de patience. Donc je suis, encore une fois, je le répète, je ne suis pas un expert pour gérer mes propres sentiments, mes propres réactions quand je suis face à l'injustice. Mais il y a une leçon que je suis en train d'apprendre et que je serai normalement toujours en train d'apprendre autant que le Seigneur me donnera du temps à vivre. C'est que la clé, elle se trouve en Jésus-Christ. Pour ça, comme pour tout autre problème dans la vie chrétienne, la clé se trouve en Jésus-Christ. Vivre la vie chrétienne, c'est vivre comme le Seigneur Jésus. C'est aussi passer par les mêmes épreuves que lui, et c'est adopter les mêmes réactions que lui. Qui, plus que lui, s'est retrouvé face à l'injustice ? Lui, il n'avait pas à se plaindre de ses propres péchés, il n'en avait pas. S'il y en avait bien un qui aurait pu réclamer justice, c'était lui. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a été mis à mort, lui le juste, pour des injustes. Est-ce que vous voulez bien prendre avec moi dans la première épître de Pierre au chapitre 2 ?1 Pierre chapitre 2, et on va lire à partir du verset 20. Le modèle que le Seigneur nous donne. Si vous avez pris l'habitude d'écrire dans votre Bible ou de souligner, de surligner un passage, vous allez pouvoir surligner le passage qu'on lit et même le mémoriser. Je vous conseille même de l'apprendre par cœur pour qu'il vienne à votre secours quand vous serez confronté à l'injustice. Donc 1 Pierre 2, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Je peux vous conseiller d'apprendre par cœur ces 6 versets de la parole de Dieu. Ils nous disent l'exemple qu'on a en Jésus-Christ. On est retourné vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Le pasteur, c'est celui qui conduit, c'est le berger. Et il nous conduit dans ce chemin-là, dans cette attitude-là. Et le Seigneur, il nous enseigne aussi qu'il faut demander à Dieu de nous pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est important parce que ça montre qu'on ne peut pas demander à Dieu de nous accorder quelque chose que l'on refuse aux autres. On ne peut pas demander à Dieu de nous pardonner nos fautes si nous, on refuse de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés. Et je termine avec ce verset de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, que vous pouvez aussi apprendre par cœur. Il est plus court que le passage qu'on a lu. « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Nous, on a reçu son pardon pour des péchés absolument innombrables. Comment est-ce qu'on pourrait refuser de faire grâce à celui qui pèche contre nous ? Amen. Je propose qu'on prie.